France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Alain Decaux explore le temps, la tribune de l'histoire, les énigmes de l'histoire, la caméra explore le temps. Alain Decaux raconte l'histoire en question, histoire des Françaises. Alain Decaux était né en 1925, il nous a quittés en 2016, académicien, passionné et passeur d'histoire.
C'est près d'un château que tout commence. Et quel château ? Avant que Louis XIV identifiât la monarchie au palais de Versailles, Saint-Germain fut l'habitation des rois. C'est là, d'ailleurs, que celui qui devait devenir le roi Soleil est né le 5 septembre 1638. L'accouchement d'Anne d'Autriche fut difficile. On crut même la vie de la reine en danger. Fallait-il choisir entre la mère et l'enfant ? « Qu'on sauve l'enfant, » dit Louis XIII. « Vous aurez lieu de vous consoler de la mère. »
Le cours de l'histoire.
La naissance de Louis XIV par Alain Decaux. Bonjour Isabelle Vera-Masson.
Bonjour.
Vous êtes historienne, sociologue des médias, directrice de recherche au CNRS émérite. Et quand la télévision explore le temps, l'histoire au petit écran est un de vos ouvrages. Il est impossible de parler de la place de l'histoire à la télévision ou à la radio sans évoquer Alain Decaux.
C'est vrai, effectivement, c'est l'historien médiatique, c'est comme ça que l'avait appelé Pierre Nora dans son fameux entretien, et on a parlé aussi d'instituteur, en tous les cas, il a été tellement important sur le plan de la durée. Déjà qu'elle arrive très très tôt, il écrit à la fois des livres, des articles, des émissions de radio, des émissions de télévision. Donc et il va jusqu'au sommet, puisqu'on en parlera j'espère, il devient même ministre. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi le symbole de la réussite de l'histoire et de cette rencontre entre histoire et médias. C'est que d'une certaine manière la nation lui reconnaît un titre, sinon le plus brillant sans doute, c'est celui d'être ministre.
Ministre, académicien, c'est vrai, les honneurs.
Alors, académicien, si à la limite, quand on est un historien, ça me paraît plus classique. Mais être ministre, il n'y a pas beaucoup d'historiens. Enfin, je pense évidemment à Jean-Noël Jeannonet, qui lui l'a été plusieurs fois. Mais c'est quand même pas si évident, surtout quand on passe à travers les médias. Donc c'est vraiment une rencontre histoire-média qui est sanctifiée, qui est reconnue par ce statut de ministre.
Et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Laurent Decaux, bonjour.
Bonjour Xavier Mauduit.
Vous êtes écrivain, vous êtes le fils de l'historien Alain Decaux. Dites-nous au moment de raconter l'histoire du soir, là, il prenait un livre où il racontait sans support du tout et ça sortait de son esprit.
Ah non, tout sortait de son imagination, c'était assez rarement de l'histoire, c'était plutôt des histoires qui ressemblaient à celles qu'il lisait enfant, des histoires de KPDP, des histoires d'espions, des histoires d'aventuriers. L'histoire, il me l'a racontée un peu plus tard, c'est-à-dire quand je me suis moi-même intéressé à l'histoire. Alors là, c'était un homme qui était plongé tout le temps dans son univers, hein. Il avait du mal à en sortir. Quand il écrivait sur Vichy, voilà, il était habité par les déboires de la France à cette époque. Et donc, évidemment, il m'entretenait de la question des collaborateurs, des procès de Pétain, de Laval, etc. Quand il a écrit sur Saint-Paul, l'un de ses derniers ouvrages, un ouvrage de fin de vie, un best-seller qui s'est vendu à 200 000 exemplaires, assez incroyable, sur cet apôtre, l'apôtre l'avorton de Dieu. Là, bien sûr, pendant un an, voilà, je n'ai entendu parler que des évangiles apocryphes ou pas, des voyages de Saint-Paul en Anatolie, où mon père était allé lui-même à près de 80 ans, parce que c'était un journaliste avant toute chose. Il faut savoir qu'il obtient sa carte de presse en 46, à l'âge de 21 ans. C'est un autodidacte en histoire, mais c'est avant toute chose, un journaliste qui aimait confronter les sources. Et je pense que aussi c'est la raison pour laquelle on l'a reconnu comme l'historien médiatique, c'est parce qu'il avait cette faculté d'historien d'aller au plus près de la vérité historique. Ce n'est pas un terme qu'il appréciait, mais au moins de la vraisemblance historique.
Et dans cette histoire d'Alain Decaux, il y a une faculté qui commence sa carrière, c'est la faculté de droit.
La vie est faite de hasard. Quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'étais sûr que je serais auteur dramatique. Alors, voulant être auteur dramatique, j'ai fait du droit. Vous allez me dire que ça n'a aucun rapport. C'est mon père qui le voulait, naturellement. Quand on fait du droit très souvent, c'est papa qui veut ça. Je crois que c'est quand même utile, parce que le droit, tout de même, ça donne une certaine discipline d'esprit et de raisonnement qui n'est pas inutile. Mais j'étais passionné d'histoire, mais comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que au lieu de lire des tas de romans, pas quand j'étais gosse, je lisais de l'histoire, je lisais le nôtre, et j'ai lu tout le nôtre, et alors toujours cette perspective, comment deviendrais-je auteur dramatique ? Alors je suis entré dans le journalisme. J'ai fait 2 années de droit, j'ai tout de même dit à mon père à ce moment-là, écoute papa, 2 années c'est beaucoup, je m'arrête, il a accepté, et puis je me suis lancé dans le bain, j'avais 19 ans, je suis devenu journaliste à 19 ans, mais en étant journaliste théâtral, car je me disais je vais joindre ce milieu que j'adore, je vais fréquenter des vedettes, je vais fréquenter peut-être des auteurs dramatiques, et puis enfin, j'écrirai enfin des pièces que je pourrais placer, j'en écris.
À 15 ans, une pièce sur Robespierre.
Oui, une pièce sur Robespierre que j'ai retrouvée d'ailleurs, c'est tout à fait extraordinaire.
C'était bon?
Ah, écoutez, Robespierre passe sa vie à se confesser, n'est-ce pas, il a un confesseur pendant toute la Révolution, ce que je n'ai pas retrouvé depuis, je ne sais pas où j'avais été prendre cette idée. Alors il est sans arrêt en train de se confesser, ça prouve que j'avais des préoccupations, même que j'ai gardées. D'ailleurs.
Alain Decaux au micro de Jacques Chancel en 1969. Alain Decaux qui évoque d'ailleurs son père, qui est votre grand-père, Laurent Decaux. Quel environnement social, quel milieu social de son enfance?
Alors Alain Decaux, c'est typiquement, j'ai envie de dire, un enfant de la Troisième République. Ses aïeux, ses arrière-grands-parents sont des tisserands, des vanniers, des ouvriers du charbon, puisqu'ils venaient tous du Nord, vraiment des petites gens. Et puis, il y a son grand-père, Henri Tipré, qui est remarqué pour ses qualités, pour son travail, par l'instituteur de son village, à côté de Lille, dans le village de Wattigny. Donc, qui devient, voilà, une profession absolument remarquable à l'époque pour un enfant d'une société très modeste. Il devient instituteur, ces fameux hussards de la République. Lui-même donnera le goût du travail à son fils, qui deviendra avocat. Donc là, c'est mon grand-père. Et cet avocat fera un historien célèbre, un académicien et un ministre. Donc voilà, on a peu à s'étonner que mon père avait chevillé au corps à la fois le goût du travail et la reconnaissance de la République et de la République méritocratique. Voilà, je pense que le corps de son engagement à gauche, si je puis dire, vient de là, du fait que il était persuadé par un optimisme convaincu que les fils pouvaient être mieux que leur père. C'est un peu ce qu'il a habité et ce qu'il a façonné toute sa vie, en plus d'un engagement religieux. Il était chrétien, du chrétien de gauche. Et donc, voilà, il avait le goût aussi de la solidarité. Vous parliez tout à l'heure du moment où il est devenu ministre. Quand on est ministre, à l'époque, l'usage veut qu'on ne touche, qu'on ne travaille pas ailleurs. Et lui continuait néanmoins à écrire en sous-main parce qu'il ne voulait pas lâcher ses acolytes sur France Inter de la Tribune de l'Histoire qui avait besoin de lui. Donc il continuait à écrire assez discrètement les dramatiques du samedi soir. Mais les revenus qui étaient générés par cela, il les donnait à des associations, au Secours catholique, aux Petits Frères des Pauvres, à l'association Saint-Vincent de Paul. Donc voilà, il y a toujours eu chez lui un fort élan de solidarité, d'empathie, de bienveillance.
Et puis dans le témoignage que nous avons entendu de la part d'Alain Decaux, il y a cet intérêt très jeune pour l'histoire. Isabelle Vera-Masson, compliqué de parler d'histoire pour couvrir l'ensemble des réalités de ce qu'est l'histoire. L'histoire évoquée ici par Alain Decaux, celle de Georges Lenôtre, J'ai le nôtre, c'est cette histoire qui raconte de manière plus ou moins scientifique les choses du passé. Et puis on l'entend quand Alain Decaux dit qu'il invente un confesseur à Robespierre. Il y a cette part d'imaginaire dans la manière de narrer le passé, sachant qu'au même moment, il y a l'histoire, ça c'est l'autre sens de l'histoire, c'est la discipline scientifique, universitaire, rigoureuse. Celle dont nous parlons dans les médias, bien souvent, c'est la transmission du passé, c'est pas la recherche historique.
Oui, même si il y a eu des historiens universitaires faisant de la recherche qui se sont confrontés aux médias et ils ont fait d'excellentes émissions. Il y a la Méditerranée de Brodel, le temps des cathédrales de Duby. Marc Ferro a commencé ses recherches grâce à la télévision et c'est même en faisant de la télévision qu'il a découvert un domaine de recherche, ce qui est le lien entre l'image et l'histoire. Donc non, la télévision a abrité très tôt, contrairement à ce que l'on pense souvent, des chercheurs de très haut niveau. Je me rappelle avoir interviewé Jacques Le Goff, qui avait fait une émission, elle est intéressante et elle est liée à notre affaire, puisqu'il avait fait une émission qui s'appelle « Présence du passé », qui est une émission qui avait été destinée à remplacer la caméra explorant le temps, qui, on en parlera j'imagine, avait été arrêtée de manière un petit peu violente. Et Jacques Le Goff avait fait une émission de télévision, et quand je l'ai interviewé, il avait oublié. Il n'avait pas la télévision, hein, on parle des années 70, fin des années 60, il n'avait pas la télévision, il n'avait pas pris la peine d'aller regarder. Alors à l'époque c'était en direct les émissions et puis il avait même complètement oublié, la télévision n'avait pas le statut qu'elle peut avoir aujourd'hui. La reconnaissance est passée d'ailleurs aussi par Alain Decaux, mais en passant par Alain Decaux, elle s'est adressée à des historiens universitaires. Donc il y a en fait il y a peut-être trois types d'histoires. On rend hommage à Pierre Nora qui est mort récemment et qui nous a tous beaucoup inspirés, même s'il a un peu oublié les médias dans son travail de recherche et lui en ai fait le reproche et il l'a reconnu puisqu'il ne traite pas des médias ni d'en faire de l'histoire ni dans les lieux de mémoire, ce qui est quand même incroyable. Et mais en tous les cas, lui il distinguait deux types d'historiens, un historien d'histoire académique, l'histoire universitaire, et il approchait et il parlait ensuite de l'histoire médiatique. Je suis pas très bien j'ai pas très bien compris la différence entre académique et universitaire. En revanche, on voit bien que l'historien médiatique va essayer de s'abreuver à ces deux types d'histoires. Une histoire académique qui serait peut-être, je sais pas très bien ce qu'il veut dire, mais un peu classique. L'histoire universitaire qui étant de la recherche, et l'historien médiatique, lui, va s'imprégner de ces deux types d'histoires pour faire un autre produit qui est à la fois académique, universitaire et surtout passeur d'histoire.
Avec Jacques Le Goff, que vous avez évoqué, on peut bien sûr citer Les Lundis de l'Histoire sur France Culture, émission phare.
Alors pardon, je suis un peu centré sur la télévision, mais vous avez raison. La radio a un autre statut que la télévision quand même, encore à l'époque. Jacques Le Goff écoute la radio quand il fait de la télévision et il n'a pas la télévision.
Laurent Decaux.
Justement sur... alors moi j'ai... pour en avoir parlé avec mon père, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, l'histoire académique, l'histoire universitaire, l'histoire médiatique, puisque effectivement Pierre Nora, dans le débat, disait à mon père qu'il était l'historien médiatique par excellence. Mais en réalité, l'historien médiatique, c'est le successeur de l'historien académique, parce que ce que Pierre Nora définit par histoire académique, c'est ce que font les académiciens le plus souvent. Vous parliez de Georges Gosselin Le Nôtre, c'est un académicien également, effectivement, ce n'est pas tout à fait romancé, mais on entre dans la psychologie du personnage, on décrypte l'événement, on a une vraie plume très vivante qui s'adresse au plus grand nombre. Donc on est dans quelque chose, on n'est pas dans du romanesque, mais on est plus dans la littérature. Tandis que dans l'histoire universitaire, on est dans l'histoire des structures. L'école des annales en est le meilleur exemple. Fernand Braudel, évidemment, la Méditerranée. Vous parliez de Georges Duby. Et vous disiez d'ailleurs, tout à fait justement, que les universitaires ont eu à une époque, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, une audience extraordinaire à la télévision et dans les médias. Le temps des cathédrales, ça a été quelque chose de retentissant à la télévision. C'était un choc de voir ça. Et je pense que d'une certaine manière, mon père a œuvré, parce que on s'est rendu compte que l'histoire suscitait un engouement phénoménal. Bon, il faut dire que La Caméra explore le temps commence à l'époque... Une époque qui est quand même assez corsetée. La fin des années 50, le début des années 60, il y a un ministère de l'information. Vous l'avez dit, la fin de La Caméra explore le temps, c'est un drame. Il y a une grève des réalisateurs à l'ORTF. Et De Gaulle dit qu'il faut, en quelque sorte, faire la peau à ceux qui sont derrière ces grèves, qui sont évidemment encartés communistes. Et Alain Perfit décide de sacrifier Stelio Lorenzi, qui était le compagnon de route de mon père, le réalisateur de La Caméra explore le temps. Et mon père, évidemment, s'insurge. C'était un homme qui pouvait être révolté, lance des comités de soutien. Il y a des courriers qui arrivent en tombereau devant l'Élysée et devant le ministère de l'Information. On proteste énergiquement. Perfit et De Gaulle ne cèdent pas. Et La Caméra explore le temps se termine. On dit à Alain Decaux et à André Castelot, voulez-vous continuer? Ils disent non, absolument pas, nous sommes solidaires. Et donc à partir de là, mon père va subir une légère traversée du désert. Il ne reprendra vraiment sa place à la télévision qu'en 69 avec Alain Decaux raconte. Mais entre-temps, il aura, à mon avis, insufflé cette idée que l'histoire devait être dite à la télévision. Et je crois, je ne sais pas s'il y aurait eu Le Temps des cathédrales, je ne sais pas s'il y aurait eu toutes ces émissions sur l'histoire s'il n'y avait pas eu Alain Decaux. Je suis son fils, hein, donc je voilà. Mais vous-même, Xavier Mauduit, voilà, vous êtes d'une certaine manière, dans les traces, parmi ces médiateurs, ces passeurs d'histoire.
Avec la pleine conscience de savoir tout ce que nous devons à ces passeurs d'histoire, et notamment à votre père. Hein. Oui. Donner le goût de l'histoire, c'est l'intérêt pour tout le monde. Isabelle.
Pardon, je ne veux pas diminuer le rôle d'Alain Decaux, mais avant Alain Decaux, il y a eu dans la littérature, il y a eu Alexandre Dumas, par exemple, pour Alexandre Dumas, il n'y avait pas de doute qu'il faisait de l'histoire. Hein, enfin, il ne faut jamais oublier ça. Lui, il faisait des recherches, il y avait des gens qui travaillaient pour lui, il n'inventait pas ses histoires. Et donc Alexandre Dumas, c'est plus peut-être à l'origine de la passion pour l'histoire qu'ont les Français, et d'autres pays d'ailleurs, qu'Alain Decaux. Donc, d'ailleurs, Alain Decaux rend hommage à Alexandre Dumas et s'inscrit dans ses traces. Et Alexandre Dumas a déjà été mis en scène à la télévision avant Alain Decaux. Ce que je veux dire, c'est que tout cela est
c'est une
parallèle.
Vraie passion française.
C'est ça. Et quand même, remettons Alain Decaux, et c'est aussi sa gloire, dans ce goût qu'il avait pour l'énigme, la fiction, au point parfois de se tromper. Par exemple, il arrive dans l'histoire à travers une erreur historique, quand même. C'est son intérêt. Il est connu pour s'être trompé, puisque ce qui l'intéresse, c'est d'écrire un travail sur Louis XVII, qu'il appelle Louis XVII retrouvé, parce qu'il postule avec André Castelot qu'effectivement, on a retrouvé le Louis XVII en son descendant à travers Charles Nonndorf. C'est une imposture dans laquelle il entre complètement. Il n'est pas le seul, et André Castelot, c'est le cas aussi. Et puis, voilà. Donc, et on voit bien qu'il y a le goût de l'événement. Le journaliste est là. Ce qui l'amuse, c'est évidemment l'histoire, mais qu'il y a peut-être quelque chose qui va provoquer un débat, qui va amuser les gens, sur lequel on va discuter. Donc, voilà, je ne suis pas sûre que... Il faut rendre encore une fois Alain Decaux son mérite, qui est d'avoir insuffler de l'intérêt de l'histoire à travers aussi la querelle, le débat et l'erreur, avec ce que ça peut avoir de dangereux.
Louis XVII retrouvé, c'est en 1947, le fils de Louis XVI, l'enfant du temple, qui est-il ?
C'est une théorie assez courante à l'époque. On s'est manifestement trompé. On a pris des cheveux de Nonndorf. On les a comparés à ceux des Bourbons. On a identifié une molécule qui était présente dans ces touches de cheveux de part et d'autre, mais on s'est rendu compte finalement qu'en fait 15 à 20% des gens ont cette molécule. Donc mon père est tombé là-dedans, mais pour, d'une certaine manière, l'admonester, il avait 21 ans.
Voilà.
Et Alexandre Dumas n'était pas très loin. Mais vous parliez d'Alexandre Dumas. Évidemment, les passeurs d'histoire d'aujourd'hui, ceux du XXe siècle, Lavis, Gosselin le Nôtre, évidemment étaient abreuvés par la grande littérature romantique, par Dumas, par Eugène Sue, par Walter Scott. Et mon père lui-même ne s'en cachait pas. S'il a eu le goût de l'histoire, c'est grâce à Alexandre Dumas. Une toute petite anecdote. Mon père à 9 ans. Il fait une crise d'appendicite très grave. On est au milieu des années 30. Une péritonite. Pas vraiment de traitement. La pénicilline n'en est qu'à ses balbutiements. On le croit perdu. Il est à sa 3e semaine de fièvre à l'hôpital. Ses parents viennent tous les jours à son chevet. Un jour, son grand-père, le fameux instituteur, lui apporte le Comte de Monte Cristo. Papa lit avidement en un jour le premier volume. C'était peut-être en 7-8 volumes à l'époque. La température baisse de 3 dixièmes. Deuxième volume, 3 dixièmes de moins, etc., etc. Au bout d'une semaine, mon père était miraculé. On s'étonne qu'il soit tombé dans cette histoire, effectivement, qu'on pourrait qualifier d'histoire bataille, d'histoire spectaculaire.
On voit que le fils est bien l'héritier de son père, quand même. Ce récit le prouve.
Avec, c'est vrai que...
La part d'imagination et de vérité
Alexandre
historique est là.
Alexandre Dumas comme médicament, c'est très très bien. Irisseur. Louis XVII retrouvé, c'est le livre d'Alain Decaux, je le disais, en 1947.
C'est le
mais
premier.
Vous avez Isabelle Vera-Masson, rapidement, dit ce nom, Castelot, parce que vous savez qu'au même moment, André Castelot publie un livre sur le même sujet. Enfin, c'est là où naît la rencontre entre les deux.
Oui, d'ailleurs Castelot est à l'origine du test scientifique dont nous parlait Laurent Decaux, et il se retrouve sur ce sujet-là. Castelot est beaucoup plus âgé qu'Alain Decaux, beaucoup plus à droite, et malgré tout, il va y avoir là une rencontre entre les deux hommes qui va durer, je crois, toute leur vie, sans jamais s'être fâchés. Donc, ça disait quelque chose, d'ailleurs, sur ce trio infernal qui va exister donc à partir de 56 et qui va être formé filmée par la télévision et qui va donner une vraie notoriété à Sergio Lorenzi, à Alain Decaux, qui est la création de la caméra Explore le temps. Et donc il va y avoir trois hommes, comme je dis dans mon livre, qui représentent les trois couleurs de l'histoire de France, c'est-à-dire que il y a le blanc, l'extrême droite de André Castelot, qui s'est un peu perdu pendant la guerre. Il y a André Castelot, qui est le bleu de la République.
Alain Decaux, le bleu.
Alain Decaux, et puis, pardon, et Sergio Lorenzi, qui est le rouge du communisme. Donc, les trois vont travailler ensemble pour le grand mérite et le grand plaisir des téléspectateurs pendant des années, mais c'est ça aussi qui va faire leur perte.
Avec ces deux noms qui demeurent associés, hein, Decaux, Castelot, et nous retrouvons Pierre Nora, et justement, pour une analyse très fine de ce qui peut différencier les deux hommes.
D'abord, j'établirai une distinction entre Decaux et Castelot que l'opinion a toujours, dont ils ont fait un peu Réaumur et Sébastopol, si vous voulez, c'est-à-dire dont ils ont accolé les deux noms. D'après leurs travaux, je dirais qu'un homme comme Alain Decaux est lui-même très sensible à l'évolution de l'histoire contemporaine, qu'à travers, par exemple, son histoire des femmes, on sent un homme qui a le sentiment des grands problèmes historiques et qui a... Et ils ont tous les deux, Castelot et Decaux, par rapport à nos lourdes habitudes universitaires, le sens de l'intérêt, du divertissement, du récit. C'est un type d'histoire, de la même manière d'ailleurs, vous savez. Je dirais que le peuple a besoin, panem et circenses, de Decaux et de Castelot, c'est-à-dire a besoin qu'on leur raconte des choses et qu'on fasse de l'histoire un divertissement et qu'à travers ce divertissement, il y a quand même une curiosité historique qui se déploie et qui portera ses fruits un jour ou l'autre. Je pense que les Decaux et Castelot, dans 10 ans, auront changé leur style de vulgarisation. Ils ne s'intéresseront plus à Napoléon III ou au grand du XIXe siècle. Ils s'intéresseront à l'histoire de l'alimentation, à la diffusion des objets de première nécessité, et qu'ils feront un type de vulgarisation historique très différent. Et par ailleurs, pour ce qui est d'Alain Decaux, il intéresse un très large public à l'histoire et c'est la première des choses à faire.
Nous étions en 1974 quand Pierre Nora donnait son avis sur Decaux-Castelot et j'aimerais que...
Il se trompait allègrement.
Par rapport à quoi? Sur l'intérêt du public, sur les questions...
Non, il annonce ce qui ne va pas advenir. C'est-à-dire que la nouvelle histoire qu'il annonce avec l'intérêt pour la vie quotidienne, la nourriture, les transports, etc. n'a pas eu de succès populaire. Ce qui marche actuellement, c'est exactement la même chose que ce qui marchait à l'époque d'André Castelot et d'Alain Decaux, et qui marchait avant eux, c'est-à-dire une histoire événementielle, personnalisée, proche d'une mythologie et d'une mémoire. Comme j'explique aussi dans mon livre, c'est que finalement l'histoire dans les médias ressemble beaucoup plus à une mémoire, à des lieux de mémoire qu'à de l'histoire. Il n'y a pas de perspective chronologique dans l'histoire médiatique. Il n'y a pas un intérêt pour la découverte et la recherche, mais on donne que ce que connaissent déjà les gens, sinon on n'a pas d'audience. Donc non, Pierre Nora rêvait, peut-être, mais en tous les cas, l'histoire dont il rêvait pour le futur n'est pas advenue.
Laurent Decaux.
Mais mon père en a rêvé aussi, et il y a... On parlait tout à l'heure de ses débuts, effectivement, Louis XVII, la Castiglione, voilà, tout un tas de petites histoires, si je puis dire. Mais peu à peu... Il a commencé très jeune, il a mûri, il lisait énormément l'École des Annales, puis La Nouvelle Histoire. Il est devenu ami avec Fernand Braudel, il a été ami toute sa vie avec Pierre Nora. Et il a, appréhendé l'histoire d'une manière plus globalisante. Pierre Nora parle de l'histoire des femmes, l'histoire des Françaises, qui là aussi c'est un succès de librairie complètement hallucinant. C'est 300 000 exemplaires vendus au début des années 70. Et je pense que là s'amorce quelque chose d'assez différent chez Alain Decaux. Il avait un peu fait le tour finalement de l'histoire des batailles, des petites historiettes, des intrigues d'alcôve, de la naissance de Louis XIV, les maîtresses de Louis XIV, la du Barry, etc. Et il voulait essayer de comprendre un peu plus profondément, pas l'identité de la France, mais ce qui avait fait avancer ce peuple. L'histoire des Françaises, c'est quand même assez remarquable, parce qu'on réhabilite tout un tas de femmes qui sont passés sous les ténoirs, sous les projecteurs. Il y a un passage remarquable sur Louise Michel, sur Madame Roland. Il y a cette femme de l'Antiquité, Basine, et puis c'est une autre femme qui voulut devenir la première impératrice du monde gallo-romain. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et puis on est dans le quotidien. On est vraiment dans le quotidien. On est presque dans l'histoire des Françaises quand on nous décrit l'histoire au Moyen Âge des femmes ou un peu avant ou à l'époque mérovingienne. L'histoire quotidienne de village, on est presque dans le roi la Durie qu'il a adoré. Il a adoré Montaillou, village occitan. Il y a, à mon avis, à cette époque-là, un rapprochement, et Pierre Nora le dit d'ailleurs, et il croyait dur comme fer, il y a un rapprochement entre l'histoire médiatique qui est incarnée par Alain Decaux et cette nouvelle tendance de la nouvelle histoire et de la micro-histoire. En tout cas, moi, j'en suis persuadé. Et donc, il y a un rapprochement à cette époque, et malheureusement, voilà, cela ne va durer qu'un temps, vous l'avez très bien dit, on est revenu aujourd'hui à une sorte d'histoire, mémoire, à une sorte de récit national, roman national quasiment, même si le terme sonne assez désagréablement à mes oreilles. Mais voilà, on n'essaye plus, il y a moins de ponts entre l'histoire universitaire, l'histoire académique ou médiatique.
Dans les années 1950, au moment où Alain Decaux commence à donner de l'histoire pour les médias, alors on l'a dit, hein, il y a un peu d'articles dans la presse, mais il y a la radio qui commence, la télé est déjà présente, mais très peu présente dans ces années 1950. Quelle est la proposition pour le public d'émissions historiques? Il n'y a pas grand-chose, il y a les causeries à la radio, il y a l'heure de culture française, mais tout se passe beaucoup par l'ouvrage à ce moment-là. Dans la télévision, il n'y a pas grand-chose encore d'inventé.
Non, alors la télévision est donc non seulement peu présente dans les années 50, mais elle a peu de programmes aussi. Hein, on veut même pas imaginer la différence avec, entre aujourd'hui et maintenant. Parce que je donne toujours l'exemple, moi, quand je commence mes recherches sur les années 50, je peux tout voir, tout ce qui était diffusé à la télévision à l'époque. C'est pas très compliqué, enfin, sauf que évidemment beaucoup de choses sont pas conservées, donc j'exagère. Mais j'aurais pu, en tout cas, si ça avait été conservé. Mais en revanche, on peut plus évidemment regarder même l'ensemble d'une chaîne aujourd'hui. Donc encore une fois, les proportions n'ont absolument rien à voir au niveau de la proposition, c'est-à-dire de l'offre de programme. Donc, il y a une télévision qui passe quelques heures par jour, pas tous les jours et pas toute l'année. Et c'est ça, les années 50. Mais il y a déjà l'histoire, parce qu'il y a toujours de l'histoire. Et c'est surtout à travers des récits, des reportages dans les journaux, et puis très vite des reconstitutions. Et les reconstitutions se font à travers la littérature. C'est-à-dire que les gens qui commencent à faire de l'histoire, qui font de la télévision, ils vont piocher dans ce qui existe. C'est pour ça d'ailleurs que la caméra Explore le temps va piocher dans la radio, c'est-à-dire dans la Tribune de l'Histoire. Mais c'est vrai de toute la plupart des émissions, elles partent toutes d'une émission de radio et d'un livre ou d'un journal. Donc comme il y a de l'histoire de la société, il y a de l'histoire dans le début de la télévision. Mais c'est vrai que la caméra Explore le temps, qui va être à la fois une émission d'histoire et une émission dramatique, puisqu'à l'époque, ce sont ce qu'on appelle les dramatiques, c'est-à-dire les reconstitutions à l'aide d'acteurs, un récit, des acteurs, un scénario et une mise en scène. Et toute la télévision, c'est très difficile d'imaginer ce que ça veut dire aujourd'hui. La télévision est diffusée en direct. C'est-à-dire que c'est comme du théâtre, mais c'est pas tout à fait du théâtre, puisqu'il y a plusieurs caméras et qu'on choisit l'image que l'on veut montrer et puis que personne n'assiste au spectacle. C'est donc très très difficile. Je sais, avec mes étudiants, leur expliquer ce que c'est que la télévision en direct, c'est très très difficile. Mais en tous les cas, la télévision, c'est d'abord des reconstitutions en direct de récits qui existent par ailleurs. On n'écrit pas pour la télévision. On va mettre très très longtemps à écrire pour la télévision. Donc on va chercher dans ce qui existe pour faire de la télévision. Et ce qui existe, c'est l'histoire. Ça a toujours été le cas.
Et puis avant de commencer à la télévision, pour Alain Decaux, c'est la radio.
La Tribune de l'Histoire prend le départ sur les ondes de la radio. Curieux et excitant mélange que ce moyen moderne au contact du passé. Véritable aventure de l'esprit qui nous entraînera à travers quantité de mondes dans des élans que nous voudrions passionner.
Car pour nous, l'histoire, la grande et la petite, ne se peut concevoir que dans la passion. L'histoire craque d'attaches humaines malgré les peintures figées, les manuels classiques et le commentaire du guide pendant la visite d'un musée.
Pour nous, l'histoire est vivante. Vivante au point même que, loin d'être enfouie dans la poussière des temps, Nous verrons qu'elle est susceptible d'évoluer, de changer d'aspect en ses détails de semaine en semaine, au fur et à mesure de nos rendez-vous sur les ondes. L'histoire ne manque ni de mystère, ni d'étrangeté, et souvent même, elle a sa poésie. Mais nous rejetterons toute la part d'inutiles légendes qui l'empâtent bien plus qu'elle ne l'enjolive. Lorsqu'il le faudra, nous nous déguiserons en détective ou en reporter.
Notre ambition est d'intéresser tout en servant l'histoire. Nous ferons en sorte que cette tribune soit la tribune de tout le monde, la plus ouverte, la plus accueillante possible. Car nous sommes tous la conséquence de l'histoire. Et sans que l'on s'en doute, chacun en somme est fonction d'un nombre illimité de péripéties historiques, bâties tantôt sur des hasards, tantôt sur la raison.
L'histoire, ce n'est pas autre chose que le surgissement continuel de l'immense et stupéfiante aventure de l'homme.
Nous étions en octobre 1951, c'est la présentation de la Tribune de l'Histoire, la première, Laurent Decaux. Quelle est cette aventure de la Tribune de l'Histoire ?
À la Tribune de l'Histoire, en réalité, c'est une idée de Castelot et de Decaux. On entend trois voix là. On entend mon père qui est à l'époque 25 ans, Castelot qui est un peu plus vieux, qui en a peut-être près de 40, et Colin Simard qui est leur acolyte, qui sera remplacé plus tard par Jean-François Cap. Et ça part de l'idée de se dire qu'il n'y a pas de magazine de l'histoire à la radio. Il y a effectivement, comme vous l'avez très bien dit, des dramatiques, ce qui est très difficile à se représenter, même à la radio. Hein. Ce sont des pièces jouées en direct par divers acteurs, généralement très aguerris. Ça sera le cas également dans le futur avec la caméra, où voilà, on a plusieurs pièces, des studios, on est filmé en direct, et là il faut être un acteur émérite, hein. D'ailleurs, les noms qu'on retrouve parmi les premiers protagonistes de la caméra, les premiers acteurs, ce sont des noms qui ont encore écho aujourd'hui. Michel Bouquet, Robert Hirsch, Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Sylvia Montfort, tous sont passés par cette école incroyable qui a été la Tribune de l'Histoire, puis la caméra explore le temps. Mais donc, c'est un magazine d'actualité ce n'était pas encore France Inter, c'était Paris Inter à l'époque, a donné sa chance. Et puis rapidement, grand succès, on se dit qu'il faudrait donner un peu plus d'ampleur. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On revient à ce qui se faisait déjà très bien, c'est-à-dire une dramatique qui est suivie d'un débat entre ces trois hommes. Mon père représentant souvent le côté plus progressiste, Colin Simard le côté tout à fait centriste, assez modéré, et Castelot le côté plus conservateur. Donc voilà, mais un débat toujours extrêmement urbain, extrêmement courtois, et souvent on s'adjoint un invité quand il y a un anniversaire, un livre qui fait date. Et voilà, c'est une émission qui au début faisait peut-être une trentaine de minutes et qui peu à peu va s'installer pour finir par être la grande émission du samedi soir sur Inter et qui durera, c'est un record de longévité pour une émission de culture, d'histoire dans la radio française, 46 ans jusqu'en 97, puisque mon père décidera, suite à des problèmes de santé, de quitter l'émission et sera... voilà, il y a toujours une solidarité, une incroyable fraternité entre lui et Castelot. Castelot lui emboîtera le pas, il n'imaginait pas continuer l'émission sans lui.
Avec ici tant d'inventions, parce qu'il faut inventer des choses, et en même temps des procédés que l'on retrouve régulièrement. L'historienne Céline Loriou a réalisé une thèse sur les micros de l'histoire, les émissions d'histoire à la radio française, et nous voyons bien ici l'inventivité du passé. Et puis, malgré tout, dans le même temps, les mêmes méthodes reprises. C'est ce qu'on retrouve, Isabelle Vera-Masson, l'idée d'une dramatique, d'un commentaire, d'un débat, et on met ça à des sauces différentes. Mais il y a des origines, parce qu'il y a la Tribune de l'Histoire qui invente les choses. Nous sommes en 1951.
Oui, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont encore vraies. Il faut dire que ce qui a marqué aussi la notoriété, et ça, c'est pas tout. Je suis en train de. Si, c'est pareil pour Stéphane Bern. C'est que lorsque Stelio Lorenzi, rendons-lui hommage, c'est quand même beaucoup de choses viennent de lui. Stelio Lorenzi, réalisateur de télévision, qui lui cherche des idées. On lui dit voilà, la télévision, c'est des séries. Là aussi, ça parle à ce qui nous arrive, c'est-à-dire il faut des feuilletons, il faut que ça feuilletonne. Il se dit bon, donc il va chercher une idée de feuilleton, quelque chose qui peut être diffusé régulièrement. Et son idée ne vient pas de la radio, c'est intéressant. Enfin, c'est ce qu'il dit. Là, je suis tributaire de l'entretien que j'avais avec lui. Il dit qu'est-ce qui marche toujours la préoccupation, évidemment un peu, j'allais dire commerciale, ce qui est le mot était ridicule, mais enfin, la préoccupation du public. Et il va regarder ce qui se vend dans les journaux et il voit que Historia marche très bien. Et donc, c'est parce que l'histoire dans la presse marche très bien qu'il va s'interroger, il va chercher des auteurs. Et il va trouver les auteurs de la Tribune de l'Histoire. Donc, c'est d'abord l'écrit, ensuite la radio, et finalement, c'est la télévision qu'il va faire avec Résil va s'adresser à Decaux et à Castelot, ils vont faire cette série. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on trouve à la fois la dramatisation, l'histoire et l'intervention de l'homme. C'est-à-dire que toutes ces émissions de la caméra éclaire le temps, surtout au début, se terminent par un débat. Et ce débat, c'est à la fois une personnalisation, c'est-à-dire mettre à travers des visages, des voix, des personnalités qui vont faussement débattre entre eux, un peu comme dans la Tribune. Et c'est en même temps s'ancrer dans la vraie histoire, dans l'histoire académique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut débattre d'une fiction, on rentre dans l'histoire. Parce que la fiction, ça peut pas être de l'histoire académique, puisque la fiction prend un chemin presque obligatoire. Il est obligé de choisir un visage, choisir des mots qui n'ont pas existé, choisir des situations qu'on imagine. On est dans la fiction invente forcément, alors que le débat rétablit la distance historique, la distance scientifique, et d'une certaine manière rétablit de l'histoire au sens de l'histoire discipline.
La parole à Alain Decaux.
Nous avons toujours voulu faire à la Tribune de l'histoire à propos de l'actualité. Parce que nous pensons que la radio est un art qui s'inscrit dans le réel, dans le concret, et qu'il nous faut, nous qui sommes en somme l'histoire représentée à la radio, il nous faut suivre ce réel. Et depuis plusieurs années que nous faisons cette émission, nous cherchons toujours à relier nos sujets justement à l'actualité.
Mais comment procédez-vous pour établir les dialogues, hein ? Je crois que c'est le gros attrait de vos émissions, c'est que vous arrivez à les rendre très présentes, très vivantes. Et ces dialogues, comment les établissez-vous ?
Ces dialogues, nous essayons de leur donner la réalité la plus grande parce que la plupart du temps, nous ne les écrivons pas. Nous nous servons au maximum des mémoires. Vous me direz qu'on a souvent mis en cause les mémoires. Il est évident qu'un personnage qui écrit ses mémoires a tendance à mettre en valeur son rôle au maximum. Si on lit les mémoires du cardinal de Retz sur la Fronde, on a l'impression que c'est le cardinal de Retz qui a tout fait, que le reste, la reine, le Mazarin, tout le reste ne compte pas, n'est-ce pas ? Mais enfin, ces gens-là, les gens qui ont fait des mémoires, font parler les personnages, se font parler eux-mêmes. On prend les mémoires de la duchesse d'Abrantès. Eh bien, quelquefois, il y a 3 ou 4 pages de dialogue avec des tirets de dialogue, comme dans les romans. Et ce sont des dialogues qui ont été reconstitués par les gens qui ont vécu ces scènes.
C'est cela.
Qui entendaient encore les gens qui leur parlaient au moment où ils prenaient la plume. Et c'est pourquoi les mémoires nous permettent, la plupart du temps, d'avoir le dialogue même, ou à peu près, qui a été prononcé à l'époque où nous le mettons dans la bouche des personnages.
Enfin, les mémoires de la duchesse d'Abrantès étaient surnommées des mémoires acadabrantesques, tellement c'était le même faux. C'est intéressant, Laurent Decaux, d'entendre cela, parce qu'il y a cette réflexion de l'auteur sur son propre travail par rapport à la démarche historique. On sait bien que la reconstitution des dialogues, pour historiennes et historiens, ça fait partie des signaux qui font basculer un ouvrage du côté scientifique à la littérature, pour le dire simplement.
Bien sûr, mais alors ce que disait très bien Madame Vera Masson, c'est que la coloration légitimante, en fait, de cette façon de pratiquer l'histoire avait lieu à travers le débat. Même si parfois ces débats prenaient une ampleur qui dépassait un peu les deux amis qui étaient Decaux et Castelot. L'imaginaire collectif a par exemple été marqué par leur prise de bec suite à l'émission à la caméra La Terreur et la Vertu, qui était une dramatique sur Danton et Robespierre, puisque mon père prenait le parti avec vigueur, c'est le moins qu'on puisse dire, de Robespierre, tandis que Castelot calmait les choses au maximum. Je sais même pas s'il était du côté de Danton. Donc, et puis, on se situait à une époque, voilà, je parlais de la chape de plomb du gaullisme dur, là, on est en 64-65, un robespierriste qui a voix au chapitre à la télévision, dans le média le plus regardé de France, ça passe pas très bien. Effectivement, la coloration authentique venait de ces débats. Mais puis après, les dialogues, c'est vrai, mon père avait beaucoup de mal avec la notion de vérité historique, je l'ai dit en introduction, il croyait à la vraisemblance. Et donc il essayait de donner à ses dialogues la plus grande vraisemblance possible. C'était un homme d'archives. Il allait fouiller très précisément dans les archives. Et pour préparer une émission, il lisait, il réunissait 50 bouquins. Quand il écrit sur la Castiglione, qui est la grande courtisane du Second Empire, que Napoléon III envoie en Italie pour séduire tout un tas de gens et pour essayer de créer les fondations d'un futur État italien unifié, il réussit à retrouver un coffre qui n'a pas été ouvert depuis une centaine d'années, dans lequel sont toutes les archives de la Castiglione, de cette duchesse. Il l'ouvre et il écrit d'ailleurs, c'est charmant, au début de son livre sur la Castiglione, « J'ouvris son carnet, son journal intime, et alors me sauta au nez des effluves de jasmin, de rose, de pivoine, le parfum de la Castiglione. » Donc vraiment, il y va, quoi. Il y va, il fait un travail d'archiviste aussi. Non, c'est en cela que ce n'est pas qu'un vulgarisateur. C'est aussi un journaliste, un historien, et je le dis dans la préface du livre qui vient de paraître,
Alain Decaux
un
raconte.
Excellent écrivain.
Oui, et on voit, hein, Alain Decaux raconte, c'est aux éditions Perrin, il y a ces textes d'Alain Decaux, et il y a cette fougue historique qui nous plaît, et on peut le dire vraiment, c'est toujours plaisant d'entrer dans un sujet historique, la Castiglione envoyée par Cavour pour convaincre Napoléon III. Préface d'Isabelle Chanteur Decaux et de vous, Laurent Decaux. Il ressemble à quoi son bureau, à votre père? Parce que vous parlez d'archives, vous parlez de livres, on imagine toujours ce lieu de création. C'était quoi?
Alors, mais c'est la caverne d'Ali Baba, son livre. Bon, alors déjà, il y a évidemment le portrait de son mentor sur son bureau avec les enfants, c'est Sacha Guitry, puisque voilà. Voilà, si quelqu'un lui a mis le pied à l'étrier, c'est évidemment, on le disait tout à l'heure, Gosselin Lenôtre et Alexandre Dumas, mais en personne réelle, humaine, physique, son mentor, c'est Sacha Guitry, puisqu'il s'est lié d'amitié avec lui. Il le disait au tout début, on a entendu cet extrait, il se rêvait auteur dramatique, mais avec un pied dans l'histoire. Il était allé trouver Sacha Guitry pour lui demander l'autorisation de jouer avec son association de jeunes comédiens de théâtre une pièce de jeunesse de Sacha Guitry, ce que Sacha Guitry, voilà, l'ayant reçu, l'ayant fait attendre en antichambre dans son hôtel particulier de l'avenue Élysée-Reclus. Mon père avait patienté, et soudain, une voix s'était élevée du premier étage au balcon, « Montez, monsieur, montez !» Et de là, le début d'une très longue amitié de 30 à 40 ans. Sacha Guitry, à la Libération, se fait arrêter par des résistants de la dernière heure, il faut le dire, il a été totalement blanchi. Il avait continué à travailler, il se produisait au théâtre tout simplement. Il n'y avait aucune intelligence avec l'ennemi, de quelque sorte qu'elle soit. D'ailleurs, il a continué sa carrière de manière flamboyante, si Versailles m'était compté, etc. Après, dans les années 50, de grands succès. Et Sacha Guitry lui a mis le pied à l'étrier, puisque effectivement il l'a aidé à faire publier son premier livre, le fameux Louis XVII retrouvé.
Donc buste de Sacha Guitry dans le bureau de votre père Alain
Le
Decaux.
Buste. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, républicain, Troisième République, les hussards noirs, évidemment, un original, ça qui trône au milieu de son bureau, et partout des livres, des dizaines de milliers de livres. Dans son premier bureau, avenue de Lamballe, juste à côté d'ici, d'ailleurs de Radio France, sa deuxième maison. Peut-être 30 à 40 000 livres. Finalement, il a dû y renoncer à ce bureau, parce que c'était quand même un très grand appartement de 100 mètres carrés, un appartement pour des livres en plein Paris, dans un beau quartier. Voilà, c'est intenable. Il s'est installé dans l'immeuble où nous habitions, à côté de l'école, de son école Janson de Sailly, du lycée de son enfance. Et là, il y avait 16 à 17 000 livres. C'est quand même l'équivalent d'une bonne bibliothèque municipale. Et donc, moi, j'y allais, évidemment. Ça, c'est mes d'excellents souvenirs d'enfance. Quand je rentrais de l'étude à 18h, je n'avais pas le droit de rentrer, hein, parce que c'était un homme vraiment très organisé, méthodique, qui travaillait 6 jours sur 7, de 9h à 19h. À 19h, il m'ouvrait sa porte, je lui racontais mes petites histoires, mes chagrins d'enfant, mais en attendant, je feuilletais, je regardais, je tombais sur... il avait fait une émission sur le Saint-Suaire de Turin, les 10 bouquins assez incroyables sur cette histoire, dont je me suis servi pour écrire à mon tour un roman sur cette histoire, et puis toutes sortes de romans sur toute l'histoire du monde, hein, et de l'histoire académique, comme on disait, jusqu'à l'histoire intellectuelle la plus précise. Donc voilà, ce bureau, c'était son refuge, et c'était sa caverne, et c'était aussi un peu une forme de, comment dire, d'abri presque maternel. Il s'y sentait extrêmement bien, il y revenait toujours, c'est là où il était heureux. Et je dois dire que si aujourd'hui j'écris et j'aime m'enfermer au milieu des livres, c'est parce que j'ai senti mon père si heureux au milieu de ces livres.
Vous avez vu votre père dans son bureau, ça c'est l'intimité, puis c'est la création. Bah, nous, ce que nous avons vu ou entendu, c'est votre père dans un studio de radio ou un plateau télé.
Sacha Guitry disait, au cinéma, les acteurs ont joué. Au théâtre, les acteurs jouent. Je crois que c'est une définition qui peut très bien s'appliquer au direct, à la télévision. Jusqu'ici, les histoires que je vous racontais étaient filmées. À partir de ce soir, elles sont en direct. Vous savez, c'est un petit mot qui, pour nous qui sommes de ce côté de la caméra, veut dire beaucoup de choses. Et je crois que pour vous aussi, parce que, réfléchissons ensemble, il est tard, oui, il est assez tard. Il est 11 heures, les enfants sont couchés, nous sommes en retard sur notre programme. Les enfants sont couchés, les bruits de la rue sont apaisés. Et si vous êtes là, eh bien c'est un peu comme si moi, un ami, je venais chez vous ce soir.
Nous étions en 1970 quand Alain Decaux évoquait Sacha Guitry et évoquait le direct, l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture est une émission en direct. Bravo. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que vous allez dire dans quelques minutes et si vous dites quelque chose qui ne me convient pas, je ne pourrai jamais le changer. Auditeur, auditrice, reçoit vraiment ce qui se passe en ce moment. Et c'est très beau aussi, ce direct-là. Isabelle Vera-Masson, la création en direct d'une émission, ça signifie quelque chose de très fort, que ce soit à la radio, bien sûr, et que ce soit à la télévision. Alain Decaux, le direct, cette proximité avec les téléspectateurs, les téléspectatrices.
Alors, le direct, c'est à la fois la proximité, c'est un lien très fort, c'est une prise de risque qui, provoquant une sorte d'adrénaline, de concentration absolue, vous rend différent, souvent meilleur. Et indiscutablement, c'est quelque chose qui est propre aux médias de l'instant, que sont la radio et la télévision, même si il y avait des recherches de proximité dans la presse écrite ancienne, mais peu importe. En tout cas, c'est vraiment spécifique de ces médias. Mais c'est aussi, et ça on oublie, un risque que prennent les décideurs, hein, c'est-à-dire ceux qui dirigent les politiques dans des années dans les années où la télévision était des médias de l'État, enfin et dans d'autres régimes ou dans d'autres systèmes. On parlait de certaines presses actuellement qui sont tenues par des politiques, hein, de plus en plus. Là, on sait que le dirigeant, l'éventuel censeur, sait qu'avec le direct, il est coincé. Et ça a été le problème de la caméra Explore le temps. J'ai eu Michel Oglore, qui était l'assistante la plus proche, et elle est devenue d'ailleurs une auteure et une réalisatrice, qui nous racontait comment les modifications du scénario arrivaient au dernier moment. Il n'y avait pas, je parle bien d'une dramatique historique, hein, c'est-à-dire qu'elles arrivaient avec des petits feuillets, des ajouts, des retraits au dernier moment, ce qui rendait fou évidemment les politiques qui n'étaient jamais loin des studios de télévision. Donc une des raisons pour lesquelles se s'est arrêtée la caméra Explore le temps, c'était l'idée qu'ils ne pouvaient décidément pas, à cause du direct et à cause de certains engagements des auteurs, contrôler le point de vue des historiens et des journalistes et des réalisateurs. Et c'est donc ce direct porte sa part à la fois de charme, de lien, mais aussi de liberté.
Laurent Decaux.
Oui, alors ce direct, il faut aussi raconter l'histoire de la suite de la caméra Explore le temps, du fait que papa se joint à tout ce mouvement de solidarité avec Lorenzi, une légère traversée du désert, même s'il continue à apparaître dans des émissions où il était invité comme intervenant pour parler d'histoire. Et puis en 69, c'est la fin du général de Gaulle et on lui dit que voilà, et qu'il a toute sa place, qu'il est temps qu'il revienne. Aussi, il y avait eu son engagement qui avait marqué parce qu'il a été très impliqué dans l'ORTF en mai 68, puisqu'il il s'était fait le porte-parole des auteurs et journalistes de l'ORTF, réclamant une plus grande liberté de parole à l'antenne. Donc voilà, le temps était passé, et en 69, à l'été 69, on lui propose donc une petite émission pour l'été qui doit durer 15 minutes. Les journalistes viennent chez lui, ils disent bon, faisons ça chez moi, j'ai mes livres, voilà, ce sera un joli décor devant ma bibliothèque, dans ma petite maison du Vésinet. Et on lui dit mais vous voulez parler de quoi ? Il dit bah je vais vous parler de l'histoire de l'homme grenouille Johnny Crabb, qui était un homme grenouille connu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui montait sur les destroyers, les choses comme ça, et qui allait prendre des secrets de fabrication des navigations de l'Axe, des forces de navigation de l'Axe. Et là-dessus, donc, il se part une seule prise, 15 minutes. Le journaliste lui dit, bah écoutez, j'avais prévu 1h15 de bande, je pensais qu'il y aurait plusieurs prises, mais bon, il n'y a rien à changer, c'était parfait, vous préparez ça depuis longtemps, vous l'avez répété, non, mais peut-être 1 heure ou 2 ce matin, c'est un sujet que je connais bien, que j'aime bien. Ils disent, bon, bah vous avez un autre sujet. Oui, si vous voulez, je peux vous parler de La Mauresse de Morée. Je viens d'écrire un livre là-dessus. Bah, allez-y, une prise, 15 minutes. Il dit, bah, on a encore de la bobine. Et ils en font 5, comme ça, d'un seul coup, d'un seul trait. Donc, ils ont 5 émissions d'avance. Mon père est absolument parfait. C'est un succès immense sur Antenne 2, puisque l'ORTF est devenu Antenne 2. On est peut-être encore l'ORTF, mais je crois que c'est déjà Antenne 2. Et à la rentrée, en septembre, on lui dit, bon, il faut passer à 30 minutes, mais Antenne 2 reçoit des centaines, des milliers de lettres, on en veut plus, donc là ça passe à 1 heure et ça durera sous ce format. Le direct, alors, justement, l'été ça avait été enregistré, mais papa dit, oui j'ai une condition pour continuer, je voudrais du direct, parce qu'un acrobate est meilleur sans filet, et je pense que, voilà, je serai plus près du spectateur, je serai vraiment, comme il le dit lui-même, hein, l'ami qui raconte à un ami, et ça se fait de manière en direct, ça ne se fait pas de manière transférée ou ça ne se fait pas de manière retardée. Donc j'exige du direct. Et il l'a fait, et il l'a toujours fait assez parfaitement. Là, c'était quand même beaucoup de préparation, évidemment, mais ce n'était pas du par cœur. C'était un plan qui était peu à peu élagué jusqu'à parvenir à une petite feuille A4, écrite en noir et blanc au stylo, peu de temps avant l'émission, peu avant la répétition de 14 heures, qui transmettait à l'équipe, qu'on photocopiait, c'est pour ça que c'était en noir et blanc. Donc il faisait sa répétition, et puis il y avait l'acrobate sans filet, donc à 22 heures à peu près, sur Antenne 2. Et il ne s'est jamais trompé, sauf une fois. Pourquoi ? Parce qu'il avait un repère, c'était le petit point rouge au-dessus de la caméra, qu'il regardait d'une manière assez fixe, bon, avec par ailleurs parfois des mouvements, des effets de manche, des silences, parce qu'il devait se rappeler l'organisation de son plan. Mais il arrive qu'une fois, c'est une autre époque, un technicien, non loin de la caméra, allume une cigarette. Un deuxième point rouge à côté du point de la caméra. Il ne comprend plus ce qui se passe. Il se dit, il y a une deuxième caméra, et il perd le fil. Et pour la première fois, un long silence, et dit « Excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Laissez-moi retrouver mes esprits. » Mais les spectateurs l'ont extrêmement bien pris. Il y a eu tout un tas de réactions, de sympathie. « Nous vous aimons toujours, Alain Decaux, etc. etc. » Donc oui, le direct, il y a tenu jusqu'au bout.
Alain Decaux raconte.
« Nous ne pouvons nous arrêter partout. Mais il nous semble qu'une halte s'impose à Vincennes. Que d'histoire encore ici. » Mais le souvenir le plus attendrissant est celui du général Doménil, gouverneur de Vincennes. Il avait perdu une jambe à Wagram. En 1814, quand l'ennemi entre dans Paris, Doménil s'enferme dans son fort. Un colonel autrichien le somme de rendre la place. « Rendez-moi ma jambe, je vous rendrai Vincennes », dit Doménil.
Isabelle Vera-Masson, ce sont des beaux moments, tout ça, de télévision, on le sait bien. Et puis, il faut rappeler aussi ce succès populaire qu'avait l'histoire à la télévision, qui a encore aujourd'hui, il y a des grands succès évidents hein, d'histoire. Mais là, nous sommes à un moment, et nous le voyons bien, où tout est question politique. Vous avez parlé des années de Gaulle, les années 1970, c'est pareil. Et par la suite, c'est pareil. Vous nous avez rappelé qu'Alain Decaux est devenu ministre, un ministre de la francophonie en 1988. C'est vrai qu'ici, tout est mêlé. L'histoire est vraiment un enjeu politique dans les médias.
Oui, d'ailleurs, moi, c'était mon sujet de thèse. C'est-à-dire que je m'étais intéressée à l'histoire comme le plus politique du non-politique. C'est-à-dire qu'on le sait, l'histoire, c'est à la fois une discipline historique et en même temps un lieu de mémoire, des guerres de mémoire et des questions d'identité très, très, très fortes. On se bat, on se tue pour l'histoire, au nom de l'histoire et pour une reconstruction, une réécriture de l'histoire. Donc c'était ça qui m'avait intéressée. Effectivement, j'ai trouvé plein de raisons dans cette recherche, puisque l'histoire, c'était à la fois une manière de parler politique dans une époque où on ne parlait difficilement politique, et la caméra explore le temps, on voit bien qu'il y a eu un jeu un peu amusant entre les auteurs, les réalisateurs et les politiques, qui s'est marqué de manière incroyablement politique par l'arrêt, par la censure, avec une réaction, une prise en main par le Parti communiste à l'époque. On oublie ce qu'a été le Parti communiste, mais il se sert de cet arrêt de la caméra explore le temps pour en faire un combat politique contre le gouvernement, et donc les gens effectivement écrivent, parlent. On se rappelle pas qu'une série comme Jacoule Croquant a permis c'était une reconstitution d'un vieux livre sur le monde paysan, et les paysans dans les manifs sont descendus avec des affiches disant nous sommes tous Jacoule Croquant. Donc l'histoire est à la fois inspiratrice, une arme pour parler politique, et effectivement pour les auteurs une manière de parler politique. Il y a eu toute une belle série dans laquelle on demande à Jean-Pierre Chevènement de parler de l'histoire, il va se servir de la Commune, ou Bayrou parler d'Henri IV. Enfin voilà, donc l'histoire est une manière de parler politique dans un lieu qui n'est pas où la politique est un peu, non pas interdite, mais circonscrite par les gouvernements, disons. Et puis progressivement, l'histoire va devenir populaire, va devenir quelque chose qui intéresse tout simplement les gens, et surtout, la télévision va changer de nature. C'est-à-dire que quand on parle de ces époques-là, il y a une chaîne. Il y a deux chaînes, et dans la deuxième chaîne, Alain de Conracon, c'est la deuxième chaîne qui fait très très peu d'audience. Moi, j'étais sidérée quand j'ai essayé de trouver des chiffres, de voir à quel point très très peu de gens regardaient la télévision. Mais ils sont quand même tous à regarder la même émission, donc ça fait quand même du monde. Et puis après, la multiplication des chaînes, la multiplication des histoires, à la limite, comment dirais-je, la situation s'inverse. On va chercher des sujets d'histoire scandaleuses pour faire de l'audience. Alors qu'avant, on essayait de trouver des sujets qui ne soient pas scandaleux parce qu'on avait peur de se faire interdire. Maintenant, c'est l'inverse. On va chercher des histoires qui peuvent un peu intéresser les gens parce qu'elles sont chaudes, compliquées, et difficiles, parce que on cherche à faire de l'audience. Donc les rapports entre le pouvoir et les médias se sont totalement inversés. On cherche le scandale alors qu'on a essayé de l'éviter.
Avec Alain Decaux, académicien aussi, hein, parce qu'il y a l'institution, et cette reconnaissance-là, elle est évidente.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'histoire était un moyen. Ce n'était pas un moyen de transmission, un moyen d'éclairage. C'est tout à fait ce que voulait faire mon père. Et aussi, l'histoire est un combat. Mon père a mené des combats avec l'histoire. Je vous parlais évidemment de 66, la fin de la caméra. 68, après, dans laquelle il s'est impliqué. 71. Qu'est-ce qu'il fait en 71? Une émission sur la Commune. Il parle pour la première fois des 20 à 25 000 fusillés par les forces de Versailles, les forces de la réaction. Et c'est un grand retentissement parce que l'histoire officielle, voilà, interdisait un petit peu ces exactions qui étaient un peu passées sous silence. Et de la même manière, cet homme de nuance, en 93, il va au Luxembourg-Boulogne avec Solzhenitsyn pour dire que, voilà, il n'a jamais employé le mot génocide, c'est une question très controversée, mais que la Révolution française, dont il était un des porte-parole et un héros, on a dit qu'il était robespierriste, avait eu ces zones d'ombre terribles, les 180 000 personnes qui ont été assassinées par le comité de salut public à cette époque-là. Donc voilà, il a su parler d'histoire d'une manière, effectivement, qu'on ne sait plus faire aujourd'hui.
Et je ne veux pas terminer cette émission sans évoquer quand même, parce que Laurent Decaux, vous êtes là pour parler de votre père, votre mère, c'était pas trop dur pour elle de vivre au milieu de tant d'histoires? Ça allait?
Oh bah écoutez, oui. Et puis elle voyageait beaucoup, c'est une reporter photographe. Elle a travaillé sur des théâtres de guerre, sur voilà, elle avait de quoi s'échapper.
Moi je voulais dire, pour parler des femmes, que Anne-Hélène Decaux, qui est la sœur a écrit sous la direction, un joli travail de maîtrise sur la Tribune de l'Histoire. Donc la fille s'est sortie porteuse du travail de son papa.
Sommes tous ses héritiers.
Voilà.
Et on ne dira jamais assez combien nous devons à ces passeurs d'histoire pour tout le monde. C'est d'intérêt, nous, dans les médias, dans les universités, du moment que c'est bien fait. Isabelle Vera-Masson, merci vivement d'être venue quand la télévision explore le temps, l'histoire au petit écran. Et merci Laurent Decaux avec cet ouvrage, Alain Decaux raconte aux éditions Perrin, la série du cours de l'histoire vulgarisée et les sciences. Une histoire est à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Eh bien, pour conclure, disons que grâce à la radio, le passé, l'histoire peuvent devenir choses présentes pour vous, amis auditeurs.
C'était le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Olivier Arnay. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Lalou, Maël Vincent Randonnier, Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.